Père Philippe, métaphysique à Fribourg, le 18 janvier 83, deuxième cours.
Je ne reviens pas sur cette topique et sur ce que Heidegger dit sur l'acte, mais c'est quand même important et intéressant pour nous de regarder ce qui peut être dit de cette manière. Et vous voyez comment se pose alors pour nous le problème. C'est que, au fond, on a quelque chose d'analogue à la position d'Aristote par rapport à Platon. Puisque le bien est au-delà de l'être, pour Heidegger, l'être, à la manière dont il le conçoit, oui. Le siège épiscopal. C'est en dehors de la métaphysique, vous avez raison. Alors, pour nous, le problème se pose un tout petit peu différemment, puisque de fait, Heidegger considère que cette intuition de l'être, cette connaissance de l'être, est un au-delà de l'étant, très difficile de voir, hein, exactement par rapport à l'entelecheia, ce qu'il veut dire. Je n'insiste pas. Il faut que nous comprenions comment nous devons, pour nous, se poser cette question. Toujours en interrogeant, hein, comme l'interrogation a repris de la valeur de notre monde d'aujourd'hui. N'oubliez pas, Merleau-Ponty, que l'interrogation est quand même une des choses principales de la vie intellectuelle. Merleau-Ponty et Heidegger, l'idéaliste n'interroge plus, tandis que celui qui poursuit la connaissance de la réalité doit toujours interroger. Dès que je suis en recherche des dimensions profondes de l'homme, j'interroge. Est-ce que je peux ramener la personne humaine uniquement au problème de l'ousia ? Ce serait une manière de poser le problème, et peut-être la plus actuelle. Nous avons découvert, vous voyez, parce que la métaphysique, hein, c'est une recherche de l'être, mais toujours par rapport à la personne, par rapport à la personne humaine, par rapport à l'homme. Donc nous essayons de découvrir comment l'être apporte pour nous une dimension à la personne humaine. C'est pour ça que je pourrais très bien, je ne l'ai pas fait dans le livre sur l'être, mais je pourrais très bien, après avoir traité l'ousia et la qualité, revenir au problème de la personne et me dire, est-ce que l'ousia est adéquate à la personne ? Est-ce que c'est suffisant de parler de l'ousia pour comprendre la personne humaine ? L'ousia est principe d'autonomie. C'est sûr que la personne humaine implique cette autonomie. Mais la personne humaine ne peut pas se ramener à cela. Il y a autre chose dans la personne humaine. Il y a cette capacité de rencontrer une autre personne. L'intersubjectivité. Il y a une possibilité de retrouver une autre personne. Et on sait combien c'est important pour nous. Souvent, nous nous découvrons nous-mêmes que grâce à la rencontre d'une autre personne. Souvent, nous arrivons à mieux saisir ce que nous disons quand nous sommes en face de quelqu'un qui est un objectant, un véritable objectant, quelqu'un qui nous dit « Mais non, je ne comprends pas ce que vous dites, qu'est-ce que vous voulez dire ?» On est obligé de reprendre. Autrement dit, l'autre est indispensable. Je ne peux pas comprendre la personne humaine sans comprendre l'autre. Or, l'ousia ne me fait pas comprendre parfaitement ce que c'est que l'autre. Au niveau de la personne. C'est dans l'ordre de l'autonomie. Donc ce serait un premier moment, vous voyez, pour montrer que de fait, la métaphysique, la philosophie première, qui recherche l'être pour comprendre parfaitement ce que c'est que la personne, est bien obligée de reconnaître qu'il y a autre chose. Je ne l'ai pas souligné, encore une fois, mais je crois qu'on pourrait le souligner. Ça nous aiderait à comprendre qu'au-delà de l'ousia, parce que c'est là la grande question, au-delà de l'ousia, il y a autre chose à découvrir dans ce qui est. Je ne peux pas dire que la philosophie première est une ousiologie. Je ne peux pas dire ça. La philosophie première est autre chose que ça. Elle implique une recherche de la substance. Je ne l'abandonne pas. Elle implique une recherche de la substance. Mais elle implique quelque chose d'autre. Alors, quel est ce quelque chose d'autre ? En face du père de finance, dois-je dire un surêtre ? Est-ce que je dois dire ça ? Est-ce que je dois dire je suis obligé d'abandonner ce que représente l'être la catégorie être, comme il dirait. Or, l'être n'est pas une catégorie. C'est justement là où on est bien obligé de ne plus parler le même langage. L'être n'est pas une catégorie. L'être n'étant pas une catégorie, l'être n'est pas enfermé dans une catégorie. L'être est à la racine de tout mon langage. Et donc, je suis obligé de reconnaître que la philosophie première ne peut pas s'arrêter à l'ousia. Elle implique l'ousia, c'est le fondement, mais elle implique autre chose. Alors, quelle est cette autre chose? Dans les diverses interrogations sur l'être, nous avons vu que l'interrogation à l'égard de la cause matérielle, à l'égard de la cause efficiente, dégringolait. Il reste donc l'interrogation à l'égard de la perfection. Quelle est la perfection de l'être? Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose au-delà de l'être? Ça, c'est une question intéressante. Peut-il y avoir quelque chose au-delà de l'être? Vous voyez, toujours cette tentation de relativiser l'être, mettre un sur-être, qui par le fait même qu'il est sur-être, n'est plus l'être. La métaphysique n'est plus la physique. Donc, un méta-devenir n'est plus le devenir. Donc, un sur-être n'est plus l'être. Quelque chose d'infra, non-être. Très curieux. Père de finance, Heidegger. Le non-être. Hein. On va relativiser l'être par le fait même. Heidegger ne relativise pas l'être, il relativise l'étant. Parce que le non-être, c'est pour dépasser l'étant. Mais il y a quand même quelque chose qui fait que le non-être est pris comme, je ne dis pas une réalité, mais c'est pris comme quelque chose qui permet de faire un dépassement. Et le surêtre du père de finance est quelque chose qui relativise l'être. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est au-delà de l'être? Ou est-ce que l'être, considéré en lui-même, dans toute son existence, suffit à expliquer le bien? À expliquer, à faire comprendre ce que c'est que l'un. Mais il faut se poser la question, hein, parce que si on ne se pose pas la question en réalité, on ne comprend pas la réponse. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est assez facile de comprendre l'intérêt de cette question, vous voyez. Est-ce que je peux comprendre cette phrase « Dieu sans l'être » parce que c'est actuel. Alors c'est intéressant. Est-ce que je peux comprendre ça? C'est un croyant qui dit ça. C'est un chrétien qui dit ça, Dieu sans l'être. Est-ce que ça a une signification ou est-ce que ça n'a aucune signification? Autrement dit, quand Dieu dit « Je suis celui qui est », ça ne veut rien dire. Quand le Seigneur dit « Je suis la lumière », ça ne veut rien dire. Parce que « Je suis ». Alors, lumière. C'est intéressant de se poser, il faut aller jusqu'au bout, hein. Pour se demander si vraiment ça a une signification. Ou tout simplement, sommes-nous en face d'un être, vis-à-vis de tout cela, d'un être qui n'est pas digéré. Ils ont eu mal, parce qu'ils ont essayé d'avaler l'être, ils ont essayé de faire une métaphysique, et ça leur a donné une amertume jusqu'à 45 ans. N'est-ce pas? Alors ils ont une amertume, ils ont des c'est mal digéré, quoi. Ils ont eu un être rance. Mais, alors, c'est le beurre hollandais, vous voyez. Alors, l'être rance, c'est une chose assez particulière. Alors, ils ont eu cet l'estomac, c'est-à-dire mal à l'intelligence. Dans le cas, ils n'ont pas digéré. Ils sont restés en face de l'être genre. Vous voyez, cet aspect qu'on reprend et qu'on comprend aujourd'hui avec beaucoup de force, comment Aristote a le souci de montrer que l'être n'est pas dans un genre. Ceux qui ont lu un peu Aristote savent combien ça revient tout le temps. Il faudrait voir combien de fois ça revient dans Aristote. L'être n'est pas dans un genre. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, on devrait dire la même chose. Attention, l'être n'est pas dans un genre. Eh bien, c'est ce que nous devons essayer de voir. Parce que quand on dit l'ousia, vous voyez, On risque de garder le mot des catégories. Dans les catégories, il y a ousia. Et comme des quantités de gens ne pensent pas au-delà des mots, ousia, c'est une catégorie. Donc, l'être est dans les catégories. Alors, on accepte ousia, mais l'être est dans les catégories. Or, l'être n'est pas dans les catégories. N'être n'est pas catégorial. L'être est au-delà de tous les genres. L'être, c'est l'éclatement de l'intelligence, dans le sens très très fort. L'intelligence saisit ce qu'il y a de plus fondamental dans sa vie, l'être. Mais elle ne peut pas l'exprimer. Et s'il y a un verbe être, c'est significatif. On n'exprime pas l'être par un nom. C'est très beau, ça. Si l'être était Ousia, on l'exprimait par un nom. Il y aurait Monsieur Être. Hein? C'est encore une manière de dire. Ou Madame, je ne sais pas, ça dépend. Ou jeune homme Être, vous voyez, c'est enfant Être, hein? Ce serait merveilleux. Non, il n'y a pas de nom. On prend un verbe. Alors là, c'est... Et je crois que ce serait très intéressant de voir cela. C'est que le langage me montre que l'être n'est pas enfermé dans l'ousia. Je suis obligé de me servir d'un verbe. Le verbe être. C'est extraordinaire. Pour exprimer, et c'est vrai, nous nous sommes tellement habitués de parler l'être. Hein, mais oui, mais attention, attention. Comment ça est parvenu l'être? L'être, il est parvenu. Il est parvenu dans notre pensée par le point de vue du verbe « est ». Il est. Alors là, vous voyez, c'est quand même curieux, hein, sans faire de concordisme, surtout pas, mais quand même en regardant attentivement dans Parménide, dans l'Exode, il y a ce fait que le verbe être entre par le présent. Il est. Dans Parménide, c'est comme ça que ça a pénétré. Dans l'Exode, c'est comme ça que ça pénètre aussi. Hein. Le verbe être. C'est très très curieux. Alors là, ce serait intéressant de regarder au point de vue philologique comment les langues différentes, quelqu'un qui serait fort en philologie, et quelqu'un qui aurait le sens métaphysique. Ça peut se rencontrer dans la même personne. C'est plutôt rare. Mais au fond, ça se rencontre. Ça peut se rencontrer. Quelqu'un qui a un sens philologique très très fort. Essayerait de regarder dans toutes les langues la formation du verbe être. En grec, en latin, en hébreu, dans les langues africaines, dans les langues, la langue arabe, je me souviens, il y avait une fois d'un professeur arabisant qui disait le verbe arabe, mais le verbe être n'existe pas dans l'arabe. J'avais à côté de moi un arabe qui a bondi. Il y a 6 formes de verbe pour exprimer l'être. C'est évident que ce n'est pas la langue arabe n'est pas la langue latine. C'est peut-être les antipodes. C'est juste inverse. Il suffit de voir comment ça s'écrit. Vous allez recevoir tout de suite. Hein. C'est pas du tout la même chose. C'est tout à fait différent. Mais le verbe être est présent dans la langue arabe. Mais sous des modalités différentes. Mais il est présent. Alors, il faut essayer de comprendre. Parce que ça, c'est très important. Vous voyez que, de fait, c'est le seul cas. C'est le seul cas. Dans la philosophie, dans les parties de la philosophie, la philosophie de la nature, la philosophie du vivant, la philosophie du facere, la philosophie de l'agir. Est-ce que c'est la personne humaine ou est-ce que c'est le verbe? Ah, c'est très curieux. Le facere, c'est un verbe. Le faire, fabriquer. Agir, c'est un verbe. Coopérer, c'est un verbe. Comme la philosophie aime les verbes. Et la science moderne aime les relations. C'est curieux. Et la philologie aime les noms. Et la philosophie analytique. Ah, ils aiment aussi les verbes, la philologie, parce que les verbes, c'est quand même très important, philologie. Il faut être sensible à cela. Donc, il faut regarder, non pas avec une philosophie analytique, hein, mais regardez tout simplement le langage. voir que dans le langage, il y a des noms et des verbes. Que signifient les noms et que signifient les verbes? Les noms signifient normalement le noyau central qui reçoit toutes les attributions. C'est le sujet qui reçoit toutes les attributions. Le nom, c'est ce qu'il y a de stable. C'est le noyau stable, nom, auquel les autres choses se réfèrent. Le verbe, c'est ce qui est relatif à un nom, normalement. Donc le verbe est second, selon le langage habituel. Prenez Pierre. Et travailleur, ou intelligent, c'est mieux pour ici. Pierre est intelligent. Quand vous dites Pierre est intelligent, il est bien évident que intelligent est en référence à Pierre, il est donc relatif à Pierre, et il est relatif à Pierre grâce au petit verbe être, ce qu'on a appelé bêtement copule. C'est affreux, ça c'est un langage logique, c'est pas du tout un langage philosophique. On devrait dire Pierre est intelligent, c'est-à-dire l'intelligence est liée à Pierre. L'intelligence est liée à Pierre. La qualité intelligente est liée à Pierre. Et Pierre, c'est le nom. Et puis, je peux très bien arriver à une certaine purification, dire Pierre existe. Pierre est. Je supprime toutes les qualités et je vois qu'il y a quelque chose de plus radical. C'est déjà une purification, ça. Normalement, le verbe exprime une action. Normalement, le verbe exprime une action. Mais il peut y avoir un verbe à l'état pur et qui n'est plus l'action et qui exprime uniquement un état. Je suis. C'est un état. J'existe. Quand vous dites j'existe, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on vous marche sur les pieds, vous dites « aïe, aïe, je suis, j'existe, attention, hein !» C'est-à-dire, faites attention, je suis autre que vous. C'est très curieux quand vous dites « j'existe hein ». Quand vous dites « je suis intelligent », c'est tout à fait différent. Mais quand je dis « j'existe », ça veut dire « je suis autre que vous ». Faites attention à moi quand même, hein, j'existe. Et c'est vrai un petit peu quand vous dites ça en colère, hein. Ça prend une force particulière. J'existe, je suis autre, je suis moi-même. Donc je suis autre que les autres. Donc le verbe exister met en pleine lumière Pierre. Lui donne un état d'autonomie parfait. Il est. Et quand vous dites ça, vraiment, en comprenant ce que ça veut dire, hein, vous lui donnez donc sa plénitude d'originalité. Il est. Le verbe est donc relatif grammaticalement. Il est donc relatif au nom. Et il se comprend en fonction du nom. Mais nous savons qu'il y a une forme infinitive dans le verbe où on veut donner au verbe comme une espèce d'autonomie. Et c'est là où je vois marcher, travailler, être. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Au point de vue profond, hein, si je prends mon langage, je dis bien, pas en philosophie analytique, mais le langage courant, habituel, le langage dont se sert le philosophe, parce que la philosophie analytique est une philosophie, donc elle ne peut plus servir à la philosophie, vous comprenez bien. Elle est une philosophie, elle a déjà enveloppé l'être de tant de choses en le supprimant, puisque la philosophie analytique supprime l'être, et elle ne veut regarder que le nom. C'est très curieux, elle ne veut regarder que le nom. Elle ne s'occupe que de cela. Et donc elle ne regarde plus le point de vue de l'être. Elle ne regarde plus le point de vue véritable du verbe. Si je regarde donc le langage habituel, je vois quand je prends le verbe sous une forme infinitive, je donne au verbe un mode substantiel. Puisque je le regarde pour lui-même. Donc je lui donne un mode substantiel. Je le vois comme une réalité autre que le nom, possédant toutes les qualités du nom. Et pourtant, venant de... Pourquoi l'intelligence fait-elle ça? Ça ça m'intéresse toujours de se demander ça, c'est que l'intelligence veut isoler le verbe. L'intelligence a un procédé d'abstraction, il ne faut pas l'oublier. Et l'abstraction, c'est la première forme d'analyse. Il ne faut pas haïr l'abstraction. Si vous haïssez l'abstraction, vous allez hisser l'analyse et vous supprimez toute science. Donc la première forme de l'analyse, c'est l'abstraction. Ce qu'il faut, c'est savoir qu'on abstrait. Il faut savoir qu'on analyse. Ça, c'est très vrai. Parce que si on ne sait plus qu'on analyse, alors à ce moment-là, ça devient très dangereux. Mais on sait qu'on abstrait. Mais quand on abstrait, on donne un sort particulier au verbe. On veut regarder le verbe dans sa propre signification. Marcher, ça a une signification. Tandis que quand je dis « Pierre marche », je vois Pierre marchant dans un état particulier. Je vois Pierre qui a une activité qui est propre à Pierre. Je ne regarde pas en premier lieu le verbe. Je regarde la signification de Pierre complétée, achevée par autre chose. Vous voyez ? Donc, je veux isoler le verbe pour lui donner sa signification propre. Si je fais ça, ça prouve que le verbe exprime quelque chose du réel que ne signifie pas le nom. Et je veux exprimer cette réalité particulière, cette signification particulière de la réalité, en hypostasiant le verbe, en lui donnant cette forme infinitive, en l'isolant et en lui donnant cette forme infinitive. C'est très important, nous l'avons vu dès le point de départ, cela. Vous vous souvenez ? La philosophie première prend son origine à partir du jugement d'existence « ceci est » et lorsque je suis capable de regarder « est » pour lui-même. Autrement, pas de philosophie première. La philosophie première est attachée au verbe « être ». Attachée au verbe « être » dans sa signification profonde. Donc, je reviens à mon point de départ et j'essaie de nouveau de regarder que le verbe « être » a deux manières d'être employé. Ça me semble très important. Ou je le regarde pour lui-même en disant « exister », la forme infinitive, ou je le regarde comme présent. Et je dis que le verbe n'est parfaitement lui-même que dans le présent. Il n'est pas du tout parfaitement lui-même dans l'infinitif. L'infinitif, c'est une contagion du nom par rapport au verbe. C'est que c'est plus facile de saisir le nom que de saisir le verbe. Alors, je mets le verbe à la manière du nom. À la manière du nom, c'est pas à la manière du verbe. Traiter le verbe sous le mode infinitif, ce n'est pas propre au verbe. C'est propre au nom. Ça, c'est une contamination. C'est une contamination, c'est très vrai. Quand vous prenez la forme infinitive, c'est une contamination. Le verbe, lui, est fait pour le présent. Pourquoi ? Parce que justement, le nom est au-delà du présent, au-delà du temps. Pierre. Le verbe, au contraire, me met dans le temps. Quand je prends la forme infinitive, je me mets au-delà du temps. Tandis que par le verbe présent, le temps est présent. Et le temps n'est parfaitement temps que dans l'instant présent. C'est vrai, le passé, c'est du temps diminué. Et le futur, c'est du temps qui n'est pas encore là. C'est du possible. Donc ça n'est pas encore. Le seul vraiment qui est le temps, c'est l'instant présent. Donc c'est le présent qui qualifie un verbe. Le verbe n'est parfaitement lui-même dans sa signification propre que dans le présent. Et donc je ne peux pas me satisfaire quand je regarde l'être de regarder l'ousia, parce que l'ousia est atteinte à partir de l'être. Maintenant, je veux atteindre et le présent. Vous voyez comment, c'est intéressant ça, parce que c'est l'aller-retour. Il faut être conscient de ça. Il faut être conscient de ce double moment, si vous voulez, dans lequel mon intelligence ne peut pas tout atteindre par le point de vue, quand elle est en présence du verbe. Parce que le verbe est quelque chose de beaucoup plus subtil que le nom. C'est beaucoup plus subtil. Alors, je mets d'abord le verbe par rapport au nom, forme infinitive, l'être. Et en étudiant l'être, je découvre la substance. C'est l'être pris sous un mode substantiel qui me fait découvrir Lousia. C'est normal. Mais maintenant, je veux regarder le verbe dans sa forme propre, c'est le présent. À ce moment-là, je ne saisis plus Lousia. Il y a quelque chose d'autre, donc, dans le verbe. Le verbe exprime quelque chose de plus que Lousia. Il veut exprimer quelque chose qui est dans toute sa pureté, dans le temps présent. Et je dois me poser la question, mais alors qu'est-ce que c'est que le verbe être dit dans le temps présent, il est ? Il est, ce n'est pas Lousia. Il est, c'est autre chose. Et je reprenais tout à l'heure cette simple affirmation, faites attention, j'existe, ne m'écrasez pas. C'est la revendication qu'on est séparé des autres. C'est la revendication qu'on existe dans son originalité propre. C'est curieux ça, vous voyez. On retrouve la métaphysique quand on est dans des états ultimes et derniers. C'est le cri de l'enfant qui a peur de perdre son être. Alors à ce moment-là, vous redécouvrez la métaphysique. Hein. La métaphysique, c'est toujours au moment, les temps périlleux. Les temps périlleux sont des temps métaphysiques. C'est pas du tout le petit bourgeois. Le petit bourgeois n'est pas métaphysicien. Ça c'est sûr. C'est quand de fait on va à l'extrême. Le petit bourgeois, il est logique. Ça lui suffit. La logique, ça lui suffit. L'arithmétique est la logique. L'arithmétique pour sa bourse et la logique pour sa maison. Alors à ce moment, ça lui suffit. Et c'est ça la définition du petit bourgeois. Tandis qu'au contraire, la métaphysique, c'est une brisure. Et Kierkegaard avait bien senti ça. La fêlure métaphysique. Il avait senti qu'il y avait quelque chose, qu'en effet, quand je me situe au niveau métaphysique, je ne peux plus être content de moi. Impossible. Je ne peux plus être dans l'ordre logique. Il y a une fêlure. C'est pas drôle. C'est pas drôle de s'installer dans la fêlure. Et de regarder ça de près, dire qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est qu'être fêlé? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quand même quelque chose de difficile à comprendre. Il est. Donc, l'analyse simple du langage. L'analyse simple du langage me montre que je ne peux pas m'arrêter à Lousia. Les deux fois, hein, j'ai dit, père de finance, Heidegger, servons-nous de cela, servons-nous du langage, servons-nous de nos expériences. Alors maintenant, nous allons nous servir de nos expériences pour voir qu'en effet, il y a un problème très particulier, qui n'est plus le problème de Lousia. Notre personne ne peut pas s'identifier à Lousia. Essayons de comprendre nos expériences très simples, habituelles, parce qu'il faut tout le temps revenir à ces expériences habituelles, si on veut essayer de comprendre qu'il y a là quelque chose de plus. Je sens très bien que ma personne humaine doit briser l'isolement de ma substance, de mon autonomie. Je sens très bien que je ne suis pleinement moi-même que quand je suis relatif à un autre, que quand je suis ou dans la contemplation, ou dans l'amitié, ou dans le travail. Il y a trois manières de me reposer. Trois manières de me reposer, trois manières d'être parfaitement moi-même et d'être en dehors de l'angoisse. Quand je me replie sur moi-même, Lousia est source d'angoisse. Vous voyez, dans la mesure où Lousia m'isole. C'est pour ça qu'une métaphysique lousiologie serait terriblement angoissante. Elle m'isolerait. C'est peut-être pour ça qu'on l'a rejetée, vous voyez. Il y a eu une espèce de réaction contre Lousia qui est assez forte. Il n'y a pas du tout la même réaction contre l'acte. Mais on l'a mal saisi. Je vois que je suis parfaitement moi-même que quand je suis au-delà de moi-même. Or, il y a une triple manière d'être au-delà de moi-même. Dans le travail, dans l'amour d'amitié, dans la contemplation. Triple manière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être au-delà de moi-même? Je l'exprime par une relation. Mais la relation, nous l'avons vu, c'est l'être le plus ténu Donc, la relation n'explique pas ce dépassement de l'ousia. Parce que la relation n'est pas un dépassement de l'ousia. La relation est un signe qu'il doit y avoir un dépassement de l'ousia. Mais la relation ne peut pas être un dépassement de l'ousia. La relation fait partie encore des catégories. Donc, la relation elle-même est relative à l'ousia. Et cependant, la relation explique un éclatement. C'est le signe d'un éclatement. Et cet éclatement, il est vécu dans le travail. Quand je travaille, je suis au-delà de moi. C'est pour ça que les psychologues disent que le travail équilibre. Tandis que quand vous vous regardez vous-même indéfiniment, vous vous déséquilibrez. Parce que vous ne pouvez pas être source d'équilibre si intelligent que vous êtes. Vous ne pouvez pas. La philosophie du même est une philosophie déséquilibrante. On ne peut pas être autrement. Elle aboutit à l'angoisse. La philosophie du même, elle aboutit à l'angoisse. Parce que l'ousia poussé à l'extrême, c'est l'isolement. Je vois au contraire que le travail me met en relation avec un bout de bois. Quelqu'un qui sculpte. Sculpte un bout de bois. C'est très curieux de voir ça du reste. Une fois je prêchais une retraite, il y avait quelqu'un qui, pendant toute la retraite, sculptait un bout de bois. Heureusement que je partirais le bout de bois, parce que je crois qu'il aurait fait une crise. Grâce au bout de bois, il pouvait écouter. C'est comme certaines personnes, elles ont besoin de tricoter pour pouvoir écouter. Alors c'est grâce à leur tricot, elles écoutent. C'est très bien, c'est très bien. C'est curieux ça. Et quand on leur fait l'observation, ils disent, ça m'apaise. Ah, très bien, ça m'apaise. Ah oui, très bien, parce que si vous êtes seul à écouter, votre intelligence n'est pas encore assez éveillée. Alors, je ne comprends rien. Tandis que quand je tricote, je comprends quelque chose. Et ah, ça m'apaise. C'est un signe d'apaisement. Le travail apaise. La relation avec la matière, la relation avec l'autre, ça me permet d'écouter. Oui, ça permet le dépassement. Écouter, c'est se dépasser. L'amour d'amitié permet le dépassement. La contemplation permet le dépassement. Alors, expliquez le dépassement. Il faut expliquer le dépassement. L'ousia n'explique pas le dépassement. Comment se fait-il que j'ai besoin de me dépasser? Comment se fait-il que j'ai besoin de me dépasser? Que j'ai besoin de découvrir quelque chose qui ne soit pas moi. L'ousia n'explique pas ça. Et aucune des catégories n'explique ça. Comme catégorie, hein, faisons attention, comme catégorie. Ça n'explique ça. Donc il faut essayer de dire, il y a dans la réalité autre chose que la détermination. La détermination n'explique pas l'être. C'est très important de dire ça, parce qu'en disant ça, je fais la critique de toute la scolastique décadente. La scolastique décadente s'est enfermée dans la définition. La scolastique décadente s'est enfermée dans les catégories. C'est pour ça qu'on ne peut pas attaquer trop, voyez, des gens qui veulent sortir de la scolastique en disant « Dieu sans l'être ». Ils veulent sortir des catégories, alors ils sortent mal. C'est une mauvaise porte de sortie. C'est Fribourg Sud. C'est une mauvaise porte de sortie. Il faut prendre une autre porte de sortie. Il faut prendre Fribourg-Est. Alors ça va, n'est-ce pas? Mais si vous prenez une mauvaise sortie, vous savez bien quand vous sortez. Les catégories, c'est l'autoroute. C'est l'autoroute. Alors l'autoroute, comme autoroute, ne mène à rien. C'est évident, ça mène à rien. Il faut sortir de l'autoroute. Il faut y entrer et en sortir. Parce que c'est vrai l'autoroute. Alors les catégories, c'est devenu dans la scolastique l'autoroute. Je suis bien, j'ai des définitions, je définis tout. Et dans la philosophie analytique, vous voulez tout définir, ils n'ont pas compris du tout la scolastique. Ils sont une infra-scolastique. Alors ils sont encore plus poussés, mais ils sont en scolastique, c'est une nouvelle scolastique, je vous affirme. Et alors ils étoufferont, parce que vouloir tout définir, c'est toujours l'autoroute. C'est très très bien les définitions, c'est très bien les catégories, c'est très bien l'ousia, mais c'est pas suffisant. Parce que l'ousia est déjà au-delà des catégories, nous l'avons vu. Mais très très facilement, on reste au niveau des catégories. Il faut sortir. Alors comment sortir ? Par la bonne porte. J'ai vu que je ne peux pas sortir des catégories par la matière. Donc, l'ontologie fondamentale est une fausse porte. L'ontologie fondamentale existerait si l'être était matière. Mais l'être n'est pas matière, et donc c'est faux de parler d'une ontologie fondamentale. Il n'y a pas d'ontologie fondamentale, sauf dans l'esprit de Heidegger. Mais elle n'existe pas en dehors de l'esprit d'Heidegger. Dans l'esprit de Heidegger, oui, elle existe. C'est évident, il pense l'être. Je ne crois plus maintenant. Dans l'éternité, il a dû se dire, c'est une fameuse purification pour les philosophes, il y a un purgatoire particulier pour les philosophes. Là, il demeure. Et parce qu'il purifiait l'intelligence de l'ontologie fondamentale, c'est quelque chose. Ouh là là là. C'est le plomb de l'ontologie fondamentale. Donner du poids à l'être pour que l'être sorte des étangs. Eh bien non, on ne peut pas sortir des étangs, on ne peut pas sortir des catégories par ce point de vue-là. Impossible. Parce que l'être n'est pas au-delà des catégories par un fondement. Il est au-delà des catégories par l'ousia. C'est une porte de sortie, l'ousia. Mais ce n'est pas la porte de sortie royale. Parce que dans l'ousia, je demeure encore dans une certaine immanence. Je demeure encore dans une certaine autonomie. Alors, je ne peux pas sortir de l'être et des catégories par la cause efficiente. Ça, Heidegger l'a très bien senti. Il a très bien vu. Parce qu'il est très anti-Occam. Alors, il a très bien senti qu'on ne pouvait pas sortir de l'être par la cause efficiente. On ne peut pas sortir de l'être par l'efficacité. On ne peut pas sortir de l'être par la technologie. On ne peut pas sortir de l'aide de cette manière-là. On ne peut pas sortir, je veux dire, des étangs. Comment sortir ? Alors, c'est l'aspect de la perfection. Alors, essayons de voir si on peut sortir des catégories, si on peut sortir de l'ousia par le point de vue de la perfection. Alors, essayons de regarder quelles sont nos diverses expériences de notre perfection. Chacun d'entre nous, quand même, nous sommes des êtres parfaits. Nous avons une certaine expérience de la perfection. Première expérience très simple. Tous les jours, et je reprends l'expérience d'Aristote, parce qu'elle reste très actuelle, plus que jamais. Tous les jours, nous nous endormons, plus ou moins vite, et nous nous réveillons plus ou moins vite. Il y a du plus ou moins du fait de s'endormir, et du plus ou moins du fait de se réveiller. Mais on peut dire que tous les jours, il y a cette expérience-là. C'est une perfection d'être éveillé. Première chose qu'on demande aux gens quand ils assistent à un cours, soyez éveillés. Et quand on voit des gens qui dorment, on parle plus fort pour les éveiller. On arrête bien de temps en temps pour mettre une petite trompette, pour réveiller les gens. Qui se réveille, vous direz, Benedicamus Domino, Deo Gratias, à la trompette, vous voyez, tout de suite, il se réveillerait immédiatement. Il serait immédiatement réveillé en se disant, bon, c'est ça, être éveillé. Donc, deux états de la même personne, c'est ça qui est très intéressant. Pierre connaît deux états, il dort. Et ce qui est très curieux, que quand Pierre dort, il dort comme André. Il a perdu toute son individuation, sauf s'il ronfle. Autrement, normalement, il dort. Mais chacun, dans l'état de dormir, cette chose très très belle qu'Aristote avait compris, quand on dort, on s'en remet au tout. Alors, la métaphysique du tout, par le point de vue de dormir, quand vous êtes une partie, et la personne, l'autonomie de la personne, va se remettre quand on dort. Mais c'est la même personne. Elle dort, elle est éveillée. Deux états particuliers. Et vous voyez, dans notre monde d'aujourd'hui, c'est très important. Parce que Freud a repris ça. C'est intéressant de partir avec Freud. Je suis tout proche de la philosophie contemporaine. Freud divise l'homme en deux. Il divise l'homme en deux. Il divise l'homme conscient et l'homme inconscient. L'homme inconscient, c'est celui qui dort, rêve éveillé. Et alors, pour Freud, il y a à ce moment-là des choses uniques. Vous savez bien, quand vous dormez, vous retrouvez vos instincts qui, la plupart du temps, quand vous êtes éveillé, sont arrêtés. C'est pour ça que le sommeil, le fait de dormir, l'inconscient, l'état d'inconscient, je peux très bien être l'état d'inconscient, l'état de conscient, pourquoi pas ? C'est bien deux états. L'état d'inconscient a une supériorité sur l'état de conscient, c'est que les instincts recherchent le plaisir. Tandis que dans l'état, dans l'état conscient, c'est le devoir. Vous voyez comme il est kantien. Comme il est kantien, Freud. Et alors on comprend très bien que Freud cherche le dépassement de Kant. Et le dépassement de Kant chez Freud se fait par le plaisir. Je peux très bien partir de là en interprétant différemment. C'est intéressant de voir que là, je donne la main à Freud. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord qu'il y a deux états. Mais alors, je ne serais pas du tout d'accord dans l'ordre des deux états.